Bonjour à tous, nous sommes sur russie.fr. Je suis avec Fabrice Carré, qui est directeur de l'association Demain le Printemps et qui va nous parler de d'école théâtrale russe et de son parcours qui l'a amené à faire un fabuleux projet dont on va entendre quelques mots ici. Fabrice, salut.
Bonjour Thomas.
Quel est un petit peu ton parcours? Par où est-ce que tu es arrivé à l'école de théâtre russe?
Moi j'ai commencé mes études en France. Je suis rentré au conservatoire, dans un conservatoire d'arrondissement. Et puis très vite j'ai commencé à faire des cours privés, des stages, des ateliers. Et donc je cherchais un petit peu toutes les formes de formation qui pouvaient être originales. Hein. C'était, moi, j'ai commencé mes études en 91. Donc à l'époque, c'était la chute du mur depuis pas longtemps. Ça commençait à s'ouvrir dans les pays de l'Est. Et puis j'avais envie de prendre une année, de pas tout, de prendre le temps de me former en fait, et puis d'aller découvrir une autre façon de travailler avec le théâtre. Donc j'ai fait le conservatoire pendant 2 ans, et puis après je me suis dit bon, il faut essayer de trouver une occasion. Et j'ai eu l'opportunité de partir à Minsk.
D'accord.
J'ai
Donc
rencontré
au
des gens
début.
qui m'ont aidé à partir en fait.
D'accord. Donc au début, tu as une formation d'acteur,
Ouais.
et puis tu es devenu enseignant de théâtre.
Je suis devenu surtout metteur en scène.
Metteur en scène.
Et puis ensuite, on va dire directeur d'école.
D'accord.
Et pédagogue, que je dirais plutôt pédagogue de vie en fait.
C'est-à-dire.
C'est-à-dire que notre école, c'est une communauté, on va dire, c'est presque une communauté théâtrale.
D'accord, ouais.
Et il y a plus d'une quinzaine d'enseignants dans différentes matières différentes.
Ok.
Et moi, en fait, je m'occupe de la coordination générale et puis du fait que cette communauté vive de manière créative et puis dans un bon état d'esprit professionnel.
D'accord. Donc tu as créé cette école dans l'ancien bloc soviétique. C'est pas à Paris que ça se passe, c'est en Biélorussie, si j'ai bien compris.
Exactement.
Pourquoi à Minsk?
Parce que moi j'ai fait mes études en Biélorussie, je suis parti faire mes études. D'abord quand je suis parti là-bas, j'avais pas compris que c'était un pays séparé. Pour moi je partais en Russie et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que c'était un pays qui était différent parce que les gens se sentent russes et ils se sentent biélorusses et russes, ils se sentent les deux choses
D'accord.
en même temps. Donc
Donc ça c'est intéressant. Quand tu es parti en quelle année là-bas?
en 1991,
Et en
en 93, en
91?
93 je suis parti.
Et en 93 tu te disais je vais à Minsk en Russie.
Oui, bon, j'avais compris que c'était le Bélarus, mais bon, j'avais pas je m'en rendais pas compte. Et après je me suis rendu compte qu'effectivement c'était un autre pays, mais les gens, disons que la culture théâtrale qui m'intéressait, elle était absolument partagée autant en Biélorussie qu'à Moscou.
D'accord.
Et après, effectivement, en vivant en Biélorussie et en allant régulièrement à Moscou et à Saint-Pétersbourg, je me suis rendu compte que, en fait, la formation théâtrale,
Ouais.
elle est vraiment commune dans tous les pays de l'ex-URSS.
D'accord.
Donc, ce qui compte, c'est d'avoir sa famille et d'être bien, d'avoir une bonne équipe en fait, d'avoir de bons, d'être dans une bonne école en fait. C'est ça qui compte le plus.
D'accord. Et alors pour ceux qui nous écoutent, qui se demandent un petit peu la Biélorussie, c'est pas tout à fait la Russie. Le cœur de tout ça, finalement, c'est l'école théâtrale russe, c'est bien ça. C'est ce sur quoi tous les enseignants, les étudiants se portent pour l'apprentissage du théâtre aujourd'hui.
En Biélorussie, en Russie, en
Voilà.
Ukraine.
D'accord.
On pourrait parler d'école théâtrale russe, on pourrait parler d'école théâtrale, l'école théâtrale soviétique, on pourrait dire. L'école théâtrale soviétique, ça fait un petit peu référence uniquement à la période soviétique. Et quand on parle d'école théâtrale russe, ça fait aussi un petit peu trop référence que à la partie russe.
Ouais.
Mais en fait, l'école théâtrale russe, c'est quand même le mot qui engloberait le plus, en fait, les recherches, les découvertes, les travaux de Stanislavski, et puis de tous ses disciples. Et Stanislavski, il a commencé avant la Révolution russe,
Ouais.
et pendant la période soviétique, des moyens énormes ont été développés.
D'accord. Tu vas peut-être pouvoir nous en dire un petit peu plus long dans tout à l'heure.
Ouais.
Juste avant, donc, pour finir au niveau de ton parcours, donc tu as terminé tes études et tu as vite eu l'idée de créer cette école, donc une école de théâtre à Minsk. Raconte-nous un peu ce projet.
Moi, dès que je suis arrivé à Minsk, j'ai trouvé que l'approche théâtrale, que la pédagogie, que le regard sur la profession était passionnant. Et cette expérience, en fait, que j'ai eu la chance de pouvoir vivre, il a fallu que j'apprenne le russe,
Ouais.
parce qu'elle n'était ouverte que à des russophones. Donc, j'ai parallèlement à mon apprentissage, j'ai appris. Et de toute façon, dans une étape, on s'est rendu compte qu'en fait, dans la première étape, la parole, le texte en lui-même n'est pas le plus important.
Ouais.
Il est très important, mais il n'est pas le plus important.
D'accord.
Donc, ce qui m'a permis de suivre un début de formation, en fait, sans être gêné par mon apprentissage de la langue qui était progressif. Surtout que la première année en formation dans les écoles théâtrales russes, en fait, la première année, entre guillemets, la parole est interdite. C'est qu'à
D'accord.
partir de la deuxième année qu'on commence à improviser.
Ok, donc tu as commencé comme étudiant en russe débutant
Ben, j'ai commencé à suivre les cours comme tous les élèves.
à te plonger dans le monde du théâtre.
Et à suivre,
Ouais.
aller à toutes les à toutes les à tous les cours, mais tous les travaux qu'on faisait en technique du comédien n'étaient pas forcément, il n'y avait pas de texte à apprendre.
D'accord.
Donc,
Après, qu'est-ce qu'on faisait s'il n'y avait pas de texte? Parce que, bon, moi, je connais un tout petit peu le théâtre et encore, mais ceux qui nous écoutent peut-être pas. Est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce qu'on fait sur scène sans quand on ne prononce pas de mots finalement?
Ben, on est vivant. C'est-à-dire que, pour résumer les choses, on va dire, parce que c'est un peu qu'est-ce qu'on fait, c'est surtout qu'est-ce qu'on apprend et qu'est-ce qu'on étudie.
Qu'est-ce qu'on apprend tout à
En
fait?
fait, quand on fait une faculté, quand on rentre à l'université,
Ouais.
et qu'on prend, par exemple, l'option la littérature, eh bien, on commence. Même si on a déjà passé le bac, on recommence à réétudier la grammaire comme on était dans les petites classes.
Ok.
Parce que, parce qu'avec la maturité, en étant plus grand, en ayant déjà certains acquis, en repassant, en réapprenant, en redécouvrant les mécanismes de la grammaire, on a un autre recul sur la langue. Et bien, au théâtre, c'est pareil. Mais l'outil qu'on va utiliser toute sa vie, c'est la langue. Et on va utiliser les mots pour agir sur son partenaire. Donc pour pouvoir bien les utiliser, il faut aller au fond de la connaissance. Et pour que le mot sorte, il faut qu'il y ait une intention derrière ce mot.
D'accord.
Et donc on va travailler d'abord sur les intentions. On va d'abord travailler sur ce qui fait qu'on est vivant.
D'accord. Donc ça, c'est très différent pour ce qui se passe donc en Biélorussie, en Russie, de ce qu'on voit chez nous, par exemple.
Chez nous, on a tout, donc on ne peut pas non plus faire de généralité. Parce qu'en France, il y a plein d'écoles de théâtre, puis il y a plein de personnes qui ont des courants différents. Donc il y a probablement des gens qui travaillent aussi comme ça, et qui sont tout à fait conscients que d'abord, il doit y avoir une préparation, que ce qu'on appelle la technique du comédien. Le comédien, il doit connaître en fait les rouages pour être vivant, pour être actif, pour être intéressant, et puis après, petit à petit, pour faire naître, illustrer la pièce qu'il a illustrée. Donc, c'est vrai que, mais peut-être que c'est plus commun dans les pays de l'ex-URSS. Voilà. Peut-être que
D'accord.
c'est peut-être ça la différence, c'est qu'il y a une influence telle qui a été amorcée par Stanislavski, par tous les disciples de Stanislavski.
Alors ces disciples, si tu peux juste rappeler lesquels dans les grandes lignes.
Ben, c'est Mikhail Tchekhov, c'est Meyerhold, c'est Kostologov. Ce sont des...
ceux qui ont diffusé le
pas forcément des disciples, mais disons que ce sont des metteurs en scène de l'époque. Ouais. Mais Grotowski, lui aussi, est un héritier. On peut dire que c'est presque un disciple, pourtant c'est un Polonais. Un Polonais qui était spécialement pour l'influence russe. Mais le fait d'être dans un système où d'un seul coup, on donne beaucoup de culture, on donne la possibilité de créer des théâtres, parce que à l'époque c'était un outil de propagande aussi, hein, faut pas non plus fermer les yeux, c'était un outil de propagande, mais d'un seul coup on a donné énormément d'argent dans cette direction. Donc forcément, il y a des choses, des courants qui se créent, il y a il y a eu à la base, il y avait aussi un courant qui est arrivé avec Stanislavski et qui a quand même donné une dynamique à beaucoup d'écoles.
D'accord. Donc le théâtre soviétique, à un moment donné, a été fortement financé pour favoriser son développement et donc l'aspect propagande aussi.
Bah oui, il a été financé par c'est l'État même, hein, qui avait un intérêt à ce qu'il y ait beaucoup de théâtre, beaucoup de culture.
C'était quelle époque ça?
Bon, bah, ça a été dès la pré-révolution.
D'accord. Et c'est le système Stanislavski qui en a profité le plus?
Eh bien, en fait, on ne peut pas dire les choses comme ça, tout à fait, mais disons que la culture théâtrale était l'opéra, la musique, tous les arts étaient mis à l'honneur.
D'accord,
ouais. Et étaient popularisés pour tout le monde, en fait. Donc, d'un seul coup, il fallait pouvoir donner l'accès à tous les enfants, au violon, au piano, à la musique. Donc il y a eu un besoin, une nécessité d'ouvrir beaucoup d'écoles. Mmh. Alors, tout le monde ne faisait pas du violon, hein. Tout le monde ne faisait pas du piano, c'était pas non plus... faut pas non plus. Mais d'un seul coup, on a donné la possibilité à beaucoup plus de gens d'en faire.
D'y avoir accès.
Donc il fallait payer les gens pour qu'ils deviennent des professeurs, pour qu'ils soient des enseignants, pour qu'ils apprennent. Il faut construire des violons, construire des écoles. D'accord. Donc tout ça, c'est toute une attention particulière qui est donnée sur l'art.
Et ça s'est répandu dans tout l'URSS.
Et évidemment, il y avait des écoles de théâtre et des écoles de musique, des écoles de danse dans toutes les républiques de l'URSS. Et donc il n'y avait pas de raison qu'à Minsk, il n'y ait pas plus de, qu'il n'y ait pas moins d'écoles que,
bien sûr, hein.
qu'à Kiev. Donc tout ça, ça a été développé. Et puis, il fallait donner du travail à toutes ces personnes. Donc il y a eu des théâtres qui ont été ouverts. Donc il y a le budget culture dans l'URSS, il était énorme. C'est un budget qui était énorme.
Oui, c'était colossal.
Colossal par rapport à notre budget, proportionnellement à nous, notre budget que nous, ouais, on peut mettre dans la culture.
D'accord. Et donc, alors tu es directeur d'une école, tu diriges une association qui s'appelle Demain le Printemps. Tu as une école donc avec des locaux à Minsk, où tu envoies chaque année des étudiants en théâtre. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la naissance de ce projet et de où est-ce qu'il en est aujourd'hui?
Eh bien, moi, en fait, dès que je suis arrivé en Biélorussie, donc, j'étais enthousiasmé par par cet enseignement et j'avais quand même tout de suite envie de le faire partager à d'autres francophones. Mais sans être obligé d'apprendre la langue, parce que tous les amoureux du théâtre ne sont pas forcément des linguistes.
D'accord.
Et parler le russe, bah, il faut être un linguiste, en fait. Mm-hmm. Donc c'était l'envie, en fait, de donner la possibilité à tout français, francophone, on va dire, qui a envie de jouer de se lancer dans cette aventure, de pouvoir partager un petit peu cette approche théâtrale. Donc ça a commencé avec des petits stages d'un mois, ça a commencé il y a 14 ans, et puis maintenant, en fait, on essaye de faire des formations qui sont un peu plus longues, qui permettent d'intégrer plus de choses dans la durée, ça dure toute une année.
D'accord, donc ça a commencé en 90...
Les premiers stages, c'est en 98.
98, d'accord. Et Donc tu envoies, si j'ai bien compris, environ 50 étudiants
Une cinquantaine
et
d'étudiants.
stagiaires
Ouais.
par an, c'est ça,
Ouais.
hein? Ils viennent tous de France?
Non. Il y en a une grosse proportion qui sont des Français, mais
Ouais.
on a maintenant régulièrement des Québécois.
Ah oui, d'accord. C'est, ça devient francophone.
Ouais. Et puis on a des fois des Belges et puis des Suisses.
Ok.
En général. Puis après d'autres pays, parce qu'il peut y avoir des francophones aussi en Espagne et puis dans d'autres pays. Mais disons qu'en général, voilà, c'est plutôt en numéro 1 les Français, après les Québécois et après les Belges et les Suisses.
D'accord. Est-ce qu'il y a des projets pour l'avenir?
Oui, bah, c'est de faire en sorte qu'elle soit le plus, on va dire, le plus structurée possible, qu'elle évolue aussi, qu'elle soit, pour l'instant, c'est une formation qui dure 1 an,
Ouais.
et peut-être qu'un jour, elle évoluera sur une formation qui peut durer 2 ans.
Donc ça c'est professionnalisant comme formation.
Oui.
Et tu as aussi donc une série de stages dont des stages l'été où les stagiaires peuvent aller s'initier
Peuvent
pendant un.
découvrir un petit peu, s'initier, découvrir. Donc en fait, c'est plus pour des personnes qui sont déjà professionnelles, qui travaillent déjà et qui
D'accord.
ont envie de découvrir en fait un petit peu cette approche et qui n'ont pas le temps de partir plus longtemps. Et puis aussi, c'est une façon d'avoir un contact qui va faire que dans le futur, certaines choses vont mûrir et peut-être c'est un travail c'est un travail à long terme, on va dire.
D'accord. Donc tu as aussi bien des gens qui connaissent déjà le théâtre que des débutants dans ces.
En général, oui. En général, j'ai que des gens qui veulent être comédiens professionnels. Ce
Ok.
sont que des gens, soit qui sont déjà comédiens professionnels, soit qui de toute façon vont pas tarder à le devenir.
D'accord.
Mais ce sont des gens qui sont quand même corps et âme, qui veulent faire du théâtre.
D'accord. Et donc alors, il y a toute une série de matières, je vois ça sur ta plaquette. Entre technique de comédien, de l'acteur, danse, claquette, chant, piano, acrobatie, jonglage, combat, escrime, tout ça. Pourquoi combat et escrime? Pourquoi tant
Parce
de.
que de toute façon, un comédien, il doit savoir tout faire. Il doit danser, chanter, il doit maîtriser son corps complètement. Puisque son instrument à lui, c'est son corps. Donc il doit maîtriser complètement son corps. Alors pour le maîtriser, bah, il faut qu'il travaille de différentes façons, différentes approches. Il faut qu'il travaille sa musicalité, son oreille, son sens du rythme, qu'il travaille son outil vocal aussi. Et puis, il faut qu'il travaille sa sensibilité, sa réactivité, ses réflexes. On fait de l'escrime, bah, on apprend aussi on apprend que des fois, il ne faut pas, on n'a pas le droit à l'erreur.
Ouais.
En escrime, on n'a pas le droit à l'erreur.
Oui, c'est
En
sûr.
acrobatie, on n'a pas le droit à l'erreur.
D'accord.
Parce que si vous ne faites pas attention à votre partenaire, il s'explose la tête par terre et c'est fini. Donc, il y a certaines choses où on n'a pas le droit à l'erreur. Et alors, évidemment, on fait en sorte qu'il n'y ait pas d'erreur. Voilà, mais d'une manière générale, en fait, toutes ces matières, ce sont des matières théâtrales. Parce que l'escrime, bah, c'est l'expressivité sur scène, c'est le combat, c'est pas que l'escrime, c'est toute la plasticité. Et le comédien doit être un caméléon, on va dire, aussi bien vocal que physique. Et il doit être aussi à l'aise dans son corps.
D'accord. Donc c'est très impressionnant. Je trouve que c'est un très beau projet. C'est vraiment intéressant. Est-ce que tu as un message à faire passer éventuellement à tous les internautes qui viennent sur russie.fr, au-delà de ce qu'on a déjà dit?
Bah venez sur notre site.
Ok.
Venez voir ce qu'on fait. En tout cas, tous les internautes
Sont pas forcément professionnels de
sont
théâtre.
pas forcément professionnels de théâtre. Donc, si j'ai un message, venez nous voir quand on a des présentations publiques en France, ça arrive. On sera heureux de vous montrer notre travail, de présenter de manière tout à fait humble les étapes de travail que l'on a, puisque
Ok.
nous on a des gens qui viennent de qui sont de niveaux différents, donc bon, ils ont en 1 an ils apprennent certaines choses, mais ils apprennent pas tout non plus. En 9 mois, on apprend certaines choses, mais après, il faut que ça mûrisse.
Ouais.
Il faut des années pour faire un comédien.
Ouais.
Comme un violoniste, il faut aussi des années pour faire un violoniste.
Ok. Je reviens sur une petite anecdote que tu m'as racontée tout à l'heure par rapport à, aux répétitions de théâtre, donc au Grand Théâtre de Minsk, si je ne me trompe pas. Les répétitions sont faites en biélorusse et est-ce que tu peux nous raconter la suite?
Non, en fait, ce que tu voulais savoir, en fait, c'est que c'était en fait en Biélorussie, parce que souvent en Biélorussie, on se pose la question, est-ce que les gens parlent russe ou est-ce que les gens parlent biélorusse?
Ouais, tout à fait.
Les gens en Biélorussie, ils parlent tous russe, à 100%.
100% russophones.
Ils sont 100% russophones. Et ils parlent tous aussi, tous comprennent quand même le biélorusse.
Ouais.
Mmh. Évidemment. C'est quand même... Mais il y a beaucoup de biélorusses qui ne parlent pas le biélorusse, qui même ont du mal à le comprendre et qui ne le parlent pas du tout.
D'accord.
Et là, pratiquement, il y a zéro biélorusse qui ne comprennent pas le russe. Ça, ça n'existe
ouais.
pas. Ça, c'est une réalité.
Et, je crois
et dans la communication générale, les gens parlent en russe tout le temps. Et même au Théâtre National du Bélarus, là où normalement, enfin, là où toutes les pièces sont jouées en russe, en biélorusse plutôt, là, les répétitions, en fait, les commentaires des metteurs en scène sont en russe. Les comédiens répètent en russe. Voilà, comme ça. Ça montre, ça donne une idée de l'ampleur.
Ils répètent en biélorusse, non?
Non, ils répètent en russe.
Et joue en
biélorusse.
Ah d'accord, d'accord. Donc il répète dans une langue et joue dans l'autre.
Ouais. Pour nous, ça nous paraît bizarre.
Vous trouvez ça assez, assez étonnant.
Alors il y a des fois des personnes qui ne s'expriment que en biélorusse, mais bon, c'est plutôt rare en général.
D'accord. Et donc ça me donne envie de te poser la question. Enfin, je crois avoir compris que les Biélorusses, de ton point de vue, étaient plus attachés à la culture russe et même au pays russe, Russie. Que à l'Europe, par exemple.
En fait, ils se considèrent européens, donc tu peux pas dire ça.
D'accord,
les Biélorusses ouais. considèrent qu'ils sont au centre de l'Europe, et géographiquement, c'est quand même un peu vrai.
C'est vrai, ouais.
Donc, non, ils sont pas... En fait, c'est parce que toi, tu penses que l'Europe, c'est l'Union Européenne.
Alors que, moi, non, tu... non, mais...
Non, mais quand tu choisis, en fait, l'Europe... Et tu dis qu'ils sont plus attachés à la Russie qu'à l'Europe. Alors, donc ça veut dire que toi, tu parles de l'Europe comme de l'Union Européenne. Alors, ouais. les Biélorusses sont très attachés à l'Europe. Mais voilà, donc, est-ce que Moscou fait partie de l'Europe ou pas? Bon, après, c'est... en tout cas, forcément, ce sont des gens qui se sentent attachés à... Parce qu'ils sont attachés aussi bien aux Ukrainiens qu'aux Russes. Mmh. Donc ils se sentent à la maison aussi bien à Brest, Litovsk, qu'à Vladivostok.
Ouais.
Donc c'est une réalité, voilà. Donc après, il y a certaines personnes qui ne veulent pas se sentir à la maison à Vladivostok, mais beaucoup de Biélorusses quand même se sentent à la maison aussi bien à Moscou qu'à Minsk, qu'à Vladivostok ou qu'à Kiev. Pas tous. Voilà, on ne peut pas faire non plus de généralité.
D'accord, ça répond très bien, ça répond très bien à la question. L'Europe de l'Atlantique à l'Oural, comme disait aussi c'est de Gaulle, je crois.
Ouais.
Très bien. Est-ce que tu aurais un dernier mot pour conclure?
Eh bien, merci. De t'intéresser à des choses aussi, des projets différents comme ça.
De rien, je pense que c'est tout à fait dans l'air du temps. Merci à toi de ces quelques instants.
Ben, merci.